Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec en direct de Washington, jeudi 9 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Mali, une dizaine de civils peuls ont été enlevés et tués mardi dans la région de Mopti, attaque attribuée aux Dozo, aux chasseurs traditionnels. Côte d'Ivoire, le PDCI rompt avec le RDR, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Soudan du Sud, le président Salva Kiir amnistie son grand rival, Riek Machar. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, voilà des mois que les tensions persistaient entre les partenaires de la coalition au pouvoir. Ce jeudi, le PDCI a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. C'est donc la fin d'une alliance qui existait depuis 2010, Bagassikoura.
C'est par un communiqué du président du PDCI, Henri Konan Bédié, que la rupture a été officialisée à 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle. Ce communiqué a été diffusé après une rencontre hier soir entre Bédié et Ouattara. Le PDCI se retire du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière, selon son communiqué. Le parti unifié RHDP, créé par le président Ouattara à la mi-juillet, visait à unir sa propre formation, le RDR, Rassemblement des Républicains, avec le PDCI. C'est un véritable danger pour notre parti, le PDCI, a réagi Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources Animales et Halieutiques, animateur d'un mouvement dissident favorable à la coalition RHDP. Cette rupture marque une recomposition du paysage politique en pleine effervescence avec l'amnistie et la libération de Simone Gbagbo et des principaux responsables du FPI, le troisième grand parti du pays.
Au Mali, au moins 11 civils peuls ont été tués mardi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Une attaque attribuée à des Dozo ou des chasseurs traditionnels. Ils ont été enlevés alors qu'ils allaient à la foire de Sofara par des miliciens venus à moto. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Et c'est dans ce contexte que les forces de sécurité du Mali sont accusées d'avoir tué des civils, dont des dizaines ont été exécutés sommairement lors de récentes opérations contre des milices islamistes. Et c'est ce qu'affirme un rapport de l'ONU. Le gouvernement a déjà reconnu que ses forces de sécurité étaient impliquées dans ces drames, quand plusieurs charniers ont été découverts dans le centre du pays entre février et juillet. Le document cite 3 attaques visant des civils imputés aux forces gouvernementales, dont une qui a fait 12 victimes civiles dans un marché au bovin. Bamako a initialement décrit cette attaque comme l'œuvre de terroristes avant de se rétracter devant le tollé provoqué auprès des proches des victimes. Et nous restons au Mali. Le verdict de la Cour constitutionnelle ouvre la voie aux consultations auprès des candidats vaincus. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont 3e et 4e, mais ils n'ont pas donné de consigne de vote. Les deux hommes ont toutefois fait des déclarations ce matin à Bamako avant le second tour prévu dimanche. Le point avec Kassim Traoré.
Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, des tractations sont en cours à Bamako. Aliou Diallo, candidat de ADP Maliba, arrivé en 3e position.
Chacun et chacun d'entre vous sait en toute conscience quel est son devoir républicain. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme il le souhaite au second tour de l'élection présidentielle. Je salue à nouveau l'engagement constant de tous mes soutiens à mes côtés. Je tiens particulièrement à remercier la famille du
L'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra n'a pas jugé nécessaire de donner une consigne de vote à ses partisans.
Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour.
Si Cheikh Modibo Diarra et Aliou Diallo n'ont pas donné de consigne de vote, les tractations se poursuivent autour des autres candidats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, un accord politique a été trouvé à Conakry entre l'opposition et la mouvance présidentielle sur le contentieux relatif aux élections du 4 février. L'opposition obtient la désignation de plusieurs présidents des conseils des quartiers et districts, ainsi que plusieurs maires de communes rurales. Elle a par conséquent suspendu une marche qui était prévue ce jeudi à Conakry. Sur place, Zakaria Camara, correspondant de VOA Afrique.
Il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autre chose, semblait se réjouir Seydou Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, après lecture des conclusions du consensus par Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisants par rapport à toutes les revendications, mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée, a précisé Seydou Alain Diallo, avant d'ajouter que toutes les parties ont fait des concessions. C'est le cas de la désignation par l'opposition de 26 conseillers de quartier et de district, de 6 maires des communes rurales et du maire de Kindia. La mouvance présidentielle, elle, obtient la désignation du maire de Dubreka. Plusieurs partis politiques avaient contesté les résultats des élections locales du 4 février dans 4 des 5 communes de Conakry. Les accords trouvés mercredi recommandent de régler les contentieux dans ces circonscriptions conformément aux dispositions légales. Le point sur le fichier électoral n'a pas été discuté. Le même jour, l'audit du fichier électoral était officiellement lancé. Après la signature des accords, le chef de file de l'opposition a annoncé la suspension de la marche qui était programmée pour aujourd'hui dans la capitale. Zakaria Camara, Conakry, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition parlementaire dit avoir introduit un recours devant le Conseil constitutionnel contre la modification du code électoral. Le texte adopté en juillet par la majorité présidentielle est jugé divisionniste et dangereux par ses adversaires. Le nouveau code consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces pouvant servir à l'inscription sur les listes et au vote, mais exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria. Au moins 17 soldats ont été tués sur une base militaire du nord-est du pays, la troisième en l'espace d'un mois. C'est ce qu'annoncent les sources militaires citées par l'AFP. Les djihadistes ont emporté des armes ainsi que des véhicules avant de s'enfuir. République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a salué la décision du président Kabila de ne pas se représenter à la prochaine élection, conformément à son engagement de respecter les termes de la Constitution congolaise. RDC toujours, épidémie d'Ebola, la vaccination contre la fièvre hémorragique a commencé hier parmi des populations à haut risque dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'annonce le gouvernement. 9 décès ont déjà été enregistrés dans cette province de l'Est de la RDC, frappée par des conflits. Les États-Unis et la Chine annoncent des dons de véhicules à l'armée centrafricaine. La Chine a offert 75 véhicules, emboîtant le pas aux États-Unis, qui en ont donné 57 selon les autorités de Bangui. L'objectif serait d'aider la reconstruction des forces armées centrafricaines. Quelques jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir, le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret d'amnistie pour les rebelles et l'ex-vice-président Riek Machar. Et Kabadou.
Le président Salva Kiir a publié un décret amnestiant Riek Machar et d'autres groupes qui avaient pris les armes depuis 2013. Ce décret prend effet en date du 8 août 2018, selon le texte lu sur la radio nationale à Juba. Salva Kiir a de nouveau appelé ses troupes au respect du cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar. L'amnestie doit tracer la voie pour mettre fin au conflit et à la guerre dans notre pays, a déclaré le président sud-soudanais dans un discours. Les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Nous devons œuvrer à l'unité de notre peuple, a conclu Salva Kiir. Un accord global signé en août 2015 était devenu caduque après une bataille meurtrière en juillet 2016 à Juba entre forces gouvernementales et rebelles. Depuis ces combats, Riek Machar vivait en exil. Les négociations sous l'égide de l'IGAD vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif.
Comores, l'Union européenne juge préoccupant les événements survenus dans l'archipel. Bruxelles s'inquiète des réactions violentes suite à l'annonce des résultats du référendum du 30 juillet. Les récentes arrestations, y compris celle du secrétaire général du parti Djoua, et la mise en résidence surveillée de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Trois opposants qui étaient entrés en clandestinité sont toutefois réapparus hier en public. Tendai Biti, figure de l'opposition zimbabwéenne, a été expulsé de la Zambie vers son pays. Ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale entre 2009 et 2013, il avait franchi la frontière zambienne pour y demander l'asile politique, démarche qui intervient alors que son parti s'apprête à déposer un recours contre les résultats des élections du 30 juillet au Zimbabwe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, au moins 29 enfants âgés de moins de 15 ans ont été tués dans une attaque qui a visé un bus dans le nord du pays. Tel est le bilan annoncé par la Croix-Rouge. La coalition sous commandement saoudien intervenant militairement au Yémen avait admis avoir mené une opération militaire dans le secteur. Syrie, les forces du régime ont bombardé des positions rebelles et djihadistes dans la province d'Idleb et largué des tracts appelant les habitants de ce bastion insurgé à se rendre. Le président syrien Bachar al-Assad a récemment prévenu que cette province frontalière de la Turquie, la dernière à échapper à son contrôle, constituait l'une des priorités de son armée. Le processus de réconciliation proposé par le gouvernement s'apparente à une capitulation pour les rebelles car il prévoit des cessez-le-feu en échange du retour du régime dans les zones insurgées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée par Nathalie Barge.
À l'occasion de la Journée internationale pour les populations autochtones, l'Union européenne a annoncé que 6,9 millions d'euros seraient consacrés à l'arrangement international pour le régime foncier et forestier. 5 millions d'euros supplémentaires seront octroyés aux organisations œuvrant sur l'accaparement des terres, le changement climatique et les droits des populations autochtones et communautés locales. La compagnie de services financiers Atlas Marin a obtenu la restructuration d'une dette de 40 millions de dollars dus à Fairfax Africa Holding, qui lui a facilité la prise de participation majoritaire dans le capital du groupe bancaire nigérian Union Bank. En plus de toucher des dividendes dans sa qualité de premier actionnaire d'Atlas Marin, la holding canadienne percevra un taux d'intérêt de 10%. 31 athlètes congolais qui participaient aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger et n'avaient pas de billets d'avion pour rentrer ont finalement pu rejoindre la RDC mercredi soir, 10 jours après la fin de la compétition. Selon l'agence ADIAC, le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo, et le trésorier Roger Bondembe Bokanyanga ont payé les billets d'avion pour le retour des jeunes à Kinshasa.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, enfin l'Afrique tient sa première victoire.
Oui, puisque le Nigeria a battu Haïti 1-0 grâce à l'ouverture du score d'Adibadé en première mi-temps. Les Nigérianes se relancent dans ce tournoi après la défaite des Chinoises 2-0 face à l'Allemagne. Le prochain match qui verra justement s'affronter la Chine et le Nigeria pour une place en quart de finale. L'autre match de ce jeudi a vu les Espagnols battre les Japonaises 1-0.
Arrivé au Cameroun du nouveau duo de sélectionneurs.
Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf, est arrivé au Cameroun, tout comme le sélectionneur adjoint Patrick Kluivert. Seedorf a été reçu par Dieudonné Appy, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT.
Les derniers transferts avant la fin du mercato en Angleterre.
Le défenseur central de Barcelone, Yerry Mina, rejoint Everton, tout comme l'ailier brésilien Bernard et le milieu portugais André Gomes. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les deux clubs à quelques minutes de la fin officielle du mercato de la Première Ligue. Hier, le gardien belge Thibaut Courtois a signé pour le Real Madrid, où il s'est engagé pour 6 saisons. La transaction est estimée à 35 millions d'euros. Quant à Nancy, le club a officialisé la signature du milieu de terrain franco-congolais Christopher Maboulou. Le joueur de 28 ans était à l'essai depuis le début du mois de juillet. Maboulou, passé par Châteauroux et Bastia, a signé un contrat d'un an avec ce club de Ligue 2.
Et enfin, tour cycliste du Rwanda.
95 km pour la cinquième étape ce jeudi entre Karanje et Rubavu. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge Julian Elman qui s'impose avec 2 petites secondes d'avance sur le Sud-Africain Julius Jade et 3 secondes sur l'Espagnol David Lozano. Au général, Samuel Mugisha, le Rwandais, reste en jaune. Demain, c'est la 6e étape, 108 km entre Rubavu et Kinigi.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, après plusieurs mois de tensions, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Pourquoi cette rupture ? Yacouba Ouédraogo a joint Ferrobali, journaliste à Abidjan.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi la rupture pour ne pas continuer le jeu du chat et de la souris avec le RDA. Le PDCI-RDA a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara depuis 2010. En 2015, l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, avait fait l'appel d'Aoukro pour que tous les partis de la coalition RHDP s'alignent derrière le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Mais lui, il espérait en retour qu'en 2020, la coalition ferait en sorte qu'un militant du PDCI soit candidat et soutenu. Tel n'est pas le cas.
Est-ce la création en juillet dernier du parti unifié RHDP par le président Ouattara qui a précipité quand même les choses?
Naturellement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, est le président du directoire des présidents du RHDP. Et ce n'est pas lui Bédié, qui a convoqué cette réunion du parti unifié RHDP. Autre chose, c'est que des militants se réclamant du PDCI-RDA et conduits par le ministre Adjumani Kobena ont créé, sur les traces du président Oufo Boigny, ce mouvement a été déclaré interdit au PDCI-RDA. Mais ce sont ces militants qui ont signé l'acte de naissance du parti unifié. Naturellement, le PDCI a interprété tout cela comme une manière de lui tourner dos.
Cette rupture intervient alors que rien qui est, le président Ouattara et le patron du PDCI, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés.
Justement, cette rencontre a été l'occasion pour le président Bédié d'informer son cadet que désormais, l'alliance politique qui a prévalu jusque-là est rompue.
Quelles sont les implications de cette rupture pour le PDCI?
Le PDCI entre ainsi officiellement et formellement dans l'opposition. Et naturellement, le PDCI a ouvert les bras dans son communiqué à tous les Ivoiriens qui verraient les choses de la même manière que lui pour tenter de conquérir le pouvoir d'État en 2020.
Les élections locales, c'est pour octobre. Après ça, il y a la présidentielle en 2020. Faut-il entendre que le PDCI va présenter et des candidats pour les élections locales et pour la présidentielle de 2020?
Le PDCI a dit que pour les élections locales, municipales et régionales, ce sont ces militants qui seront soutenus. Et pour la présidentielle, naturellement, le PDCI a toujours dit, avec ou sans le soutien du RHDP, il aura un candidat en 2020.
Voyez-vous Alassane Ouattara ou Henri Konan Bédié, candidat à la présidentielle de 2020?
Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a fait 2 déclarations en presque 2 mois qui disent clairement qu'il veut se retirer. Quant au président Henri Konan Bédié, là, je ne peux pas vous dire clairement quelle est ma conviction. Toutes les options sont possibles au PDCI-RDA.
Ferrobali, journaliste, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, 10 de civils peuls ont été tués mardi dans le centre du pays. Ces personnes devaient se rendre à la foire de Sofara, à 80 km au sud de Mopti. Les dozos, chasseurs traditionnels, sont pointés du doigt. Idriss Fall a joint Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté peul du Mali.
L'acte est passé le mardi. C'était des marchands, ils partaient au marché de Sofara. Et nous, en peul, on appelle la zone Kaka. Ils traversent les fléaux. Vers 10h du matin, leur pirogue a été stoppée par des hommes habillés en sacerdozo, lourdement armés. Vers 14h, 16h, ces gens arrêtés, il y a eu une sélection. 14 ont été retenus, 3 autres ont été libérés. Et les 3 ne sont pas de la communauté peul. Mais les autres 14 retenus sont tous des Peuls et ils ont été tous aussi massacrés. D'ailleurs, l'enterrement de ces 14 personnes a eu lieu aujourd'hui.
Mais on croyait que les problèmes entre les Peuls et les Dozo, c'est que c'était fini et réglé.
Non, pas du tout, même pas. Ça continue toujours. Et d'ailleurs, pour votre information, même ce matin, il y a aussi un petit village, toujours dans le cercle de Guéné, qui a été aussi attaqué par ces mêmes sacerdotes. Et là-bas aussi, 3 personnes ont été tuées ce matin jeudi.
Ces Dozo, ils opèrent comment? Parce que dans le centre du Mali, il était interdit de porter des armes de guerre, il était interdit de rouler en moto.
Oui, c'est interdit pour certaines communautés, mais pas pour d'autres. Depuis presque une année, c'est interdit. Mais malheureusement, ces dozo continuent toujours à rouler sur des motos, d'ailleurs des dizaines de motos, et avec les armes de guerre, sans problème. D'ailleurs, l'un des 3 personnes qui ont été libérées, l'un d'eux expliquait comment est-ce que ces dozo a été habillé. Il disait qu'ils étaient habillés en tenue dozo, mais les chaussures là, c'est des rangers. Que les militaires portent. C'est ces chaussures-là que ces dozo aussi portaient.
Il y a un mois, le ministre de la Défense avait reconnu l'implication de l'armée dans l'assassinat de 25 civils vers Mopti. Est-ce qu'il y a une suite à cette affaire?
Pas à notre connaissance. Pas d'arrestation, pas de sanctions. Et ça continue toujours.
Est-ce qu'on a su qu'est-ce qui avait tué ces 12 civils-là dans un marché dans le centre du Mali?
Oui, ça se fait à Boulkessi, près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne. Le Mali fait partie du G5 Sahel. Donc ils étaient en groupe près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne qui a massacré, ils ont tué ces 12 civils dans le marché. Et d'ailleurs, l'administration même a enquêté sur ça. Ils ont même reconnu que l'armée a tué ces 12 civils. Je vous dis toujours, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a même pas d'enquête. Parce qu'on nous dit toujours, oui, il y a eu une enquête ouverte, mais l'enquête n'aboutit absolument à rien.
Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté Peul au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Centrafrique, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des questions. Au-delà de ce fait divers, c'est la présence russe dans le pays qui interroge, puisque des militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et qu'une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Pour un éclairage, Nicolas Pinault a joint Mikhail Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques points d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma, qui a été découvert par les experts français après la guerre. Tout le saga d'Arriva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine.
Mikhail Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
Salut, les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous vieillit comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kinshasa, venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. C'est une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kinshasa, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kinshasa, c'est l'apocope de Kinshasa, tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinoa. En étant dans l'ex-Léopoldville, qui se trouve à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays, dont environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie, on la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, ils sortent de partout, dans les routes, le commerce. Il y a aussi d'autres Africains, aussi des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chiluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kinshasa. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement, tu me souriras. Et juste te dire bonjour, je ne te file pas l'intro de Kinshasa.
Voilà, c'était un slam de Yekina qui parlait de Kinshasa, et ça tombe bien puisque Roger Muntou, que vous allez attendre dans quelques minutes dans le RM Show, est lui aussi à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Harakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.